J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grostette et Rémi Pascal sur Radio B.
Salut Rémi.
Salut Simon.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 7e chronique de Plat de Résilience, une chronique qui décortique le système alimentaire et l'agriculture pour mieux comprendre ses enjeux et les solutions pour continuer à se nourrir demain.
Ne soyez pas surpris si aujourd'hui je suis avec Simon. Thomas est en vacances. Et comme Thomas, Simon est un passionné d'agriculture et de baignade glacée. Alors vous allez voir, j'ai trouvé le candidat parfait. Merci Simon pour ta présence et bienvenue sur Radio B.
Merci Rémi, ravi d'être ici pour parler de quelque chose d'important.
Tu veux dire d'agriculture?
Non.
D'alimentation?
Non plus.
De notre dépendance au chocolat?
Toujours pas.
De vache?
Non, enfin presque.
Des cornes de vache?
Plus volatiles.
Des pets de vache?
Oui, en quelque sorte.
C'est-à-dire?
Aujourd'hui, on va parler des impacts de notre système alimentaire sur les écosystèmes et le climat.
Les vaches, ça pollue, donc on n'a qu'à les taxer et tout le CO2 sera oublié. Allez hop, problème suivant.
Oh là là, mais tu dis vague.
Vague.
Il n'y a pas que les vaches qui polluent. Laisse-moi prendre un peu de hauteur. À partir de 1750, mais surtout à partir de la révolution industrielle de 1850, on a commencé à utiliser massivement les machines pour les activités humaines. Pour faire fonctionner ces machines, on a besoin d'un moteur et donc d'énergie fossile, le gaz, le pétrole ou le charbon.
Oui, c'est comme une voiture.
En brûlant ces énergies, on produit des gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère et dérèglent le climat. Pour la faire courte, c'est comme si on avait rajouté des couvertures autour de la Terre. Il fait certes plus chaud, mais ça dérègle le climat.
Ça ne marche pas au diesel, une vache.
Mais attends, j'ai pas fini. Thomas m'avait prévenu que tu étais impatient.
Oui, un petit peu.
Le système alimentaire, comme les autres secteurs, s'est industrialisé. Il s'est mis à utiliser plus de machines qu'avant, les tracteurs, les camions pour transporter la nourriture, les usines de fabrication d'engrais.
Donc plus le système alimentaire utilise des machines qui marchent aux énergies fossiles, plus il contribuera à dérégler le climat en produisant du CO2.
C'est ça. Mais en plus d'utiliser des machines, l'agriculture déforeste. On ne fait pas pousser du blé dans des forêts, donc on les coupe. Et quand on déforeste une forêt, on relargue d'énormes quantités de gaz à effet de serre contenues dans le sol et dans les arbres. Si je te dis 1992...
Facile, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Mais je vois pas du tout le rapport avec le climat.
Eh bien, suite à cette découverte, d'autres Européens ont suivi, ce qui a entraîné la mort de 90% des Amérindiens en 1600. Soit par les virus ramenés d'Europe qui ont décimé les populations, soit par les massacres orchestrés. Moins d'humains, c'est moins d'agriculteurs, donc moins de champs. La forêt a repris ses droits sur une grande surface, et tous ces arbres qui ont poussé et stocké du carbone, autrefois relargués par l'agriculture, ce qui a un peu contribué à refroidir le climat.
Donc quand tu coupes une forêt, tu rejettes des gaz à effet de serre, notamment du CO2, et à l'inverse, quand tu plantes des arbres, tu en stockes. Bah, c'est facile. Et les vaches dans tout ça?
Bien, les vaches, les moutons et les chèvres, mais surtout les vaches, mangent de l'herbe. Naturellement, quand ces herbivores digèrent, ils rôdent du méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant.
Donc plus il y a de vaches, plus on dérégule le climat, si je simplifie.
Oui, les herbivores sont indispensables pour l'agriculture, ils fournissent plein de services indispensables, on les détaillera dans d'autres épisodes, mais trop d'animaux, trop d'effets délétères sur le climat.
Mais j'ai entendu dire que les engrais aussi dérégulaient le climat.
Bien, la production d'engrais minéraux, ou la plantation de riz d'ailleurs, rejette un autre gaz à effet de serre qu'on appelle le protoxyde d'azote. Tout comme le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui perturbe beaucoup le climat.
Donc, si je résume, les machines et la déforestation produisent du CO2 qui pollue, les herbivores produisent du méthane et les engrais et les rizières du protoxyde d'azote qui pollue plus.
Mis bout à bout, notre système alimentaire produit un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est pas rien. Et si on regarde en France, sur toutes les émissions de gaz à effet de serre de notre système alimentaire, c'est le secteur agricole et la fabrication d'engrais qui rejettent deux tiers de ces gaz, contre un tiers pour l'industrie agroalimentaire et les supermarchés.
Donc ça veut dire que pour fonctionner, notre modèle alimentaire produit des gaz à effet de serre qui dérégule le climat, mais qu'un climat dérégulé, c'est plus d'inondations, de sécheresses, de vagues de chaleur, ce qui n'est pas bon pour l'agriculture.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Mais tu dis qu'en déforestant, on dérégule le climat. Donc ok, j'ai bien compris. Mais on détruit aussi un écosystème naturel qui est complexe, et quasiment toutes les formes de vie qui y vivaient.
Et l'agriculture n'a rien de naturel. Dans tous les cas, tu perturbes un écosystème naturel complexe pour en faire des champs qui sont moins riches en biodiversité. C'est le deuxième gros impact de l'agriculture. Elle rend de moins en moins vivants les écosystèmes naturels.
On n'a qu'à arrêter de déforester.
Mais ça va plus loin que ça. L'agriculture du 21e siècle a plus d'impact sur les écosystèmes. Premièrement, en travaillant beaucoup les sols et en les laissant nus une bonne partie de l'année, l'agriculture provoque de l'érosion.
C'est quand de la terre part, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Avec leurs racines, les plantes maintiennent le sol qui, à nu, se vide de sa substance. Par exemple, 1 mm de pluie violente peut arracher jusqu'à 100 kg de terre si le sol est sec et nu. En Europe, nos sols perdent en moyenne 4 tonnes de terre par hectare. Et ça peut monter jusqu'à 17 tonnes pour les vignobles.
C'est énorme, 17 tonnes de terre. C'est pour ça que les rivières sont marrons après les orages. C'est la terre qui s'en va et qui finit dans l'eau. Mais ça va être compliqué de faire de l'agriculture sans terre.
Surtout que la terre qui part est la plus fertile. Un tiers des sols mondiaux sont considérés dégradés, car entre autres, moins fertiles. Et le travail du sol répété sans couverture végétale lui fait perdre sa fertilité.
Je comprends pas bien, là.
Mais le sol est comme toi, il a besoin de manger. Si tu fais beaucoup de sport et que tu ne manges pas assez, tu vas être de moins en moins en forme. Et c'est pareil pour le sol. Si tu le travailles beaucoup, sans lui donner assez de plantes à manger, il perd en fertilité.
Donc on a besoin de sols fertiles pour nourrir 8 milliards d'êtres humains.
Pour garantir la résilience alimentaire, on doit garantir d'avoir des sols fertiles. Pour cultiver, on utilise aussi des intrants, comme des pesticides pour protéger les cultures, des engrais pour les faire pousser, ou des antibiotiques pour soigner les animaux d'élevage. Et les quantités utilisées peuvent être importantes, et les produits se répandent et polluent l'environnement.
C'est un peu comme la pollution au chlordécone, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias.
Oui, cet insecticide très toxique pour la santé et l'environnement a beaucoup été utilisé dans les bananeries antillaises. Et même si on ne l'utilise plus depuis 30 ans, il contamine encore certains aliments.
Donc le produit est tellement toxique que même après 30 ans, il pose encore des problèmes. C'est énorme. Mais j'ai entendu que, en plus de tout ça, donc ce que tu dis là, les engrais, les insecticides, l'érosion, que l'agriculture est responsable de 80% de la déforestation mondiale et que la déforestation est la première cause d'effondrement de la biodiversité.
Et que ce soit une pollution par pesticides, une perte de fertilité ou la déforestation, l'agriculture affecte beaucoup la biodiversité et la santé des sols. Et sans biodiversité et écosystème en bonne santé, il n'y a plus d'agriculture. On sait faire pousser des plantes dans des pots ou dans des sols pauvres, mais il faut tout apporter à la plante. Et les engrais, ça demande beaucoup d'énergie et ça contribue au changement climatique.
Donc c'est plus rentable d'avoir des écosystèmes en bonne santé et un climat en bonne santé.
Dit simplement, notre agriculture affecte la santé des écosystèmes qui sont de moins en moins vivants.
Je vais prendre un verre d'eau pour digérer tout ça, hein, parce que ça fait quand même beaucoup d'informations.
Ah, il faut que je t'en parle d'ailleurs.
De quoi ? De ma digestion ?
Ah, mais non, d'eau. On a parlé de l'impact du modèle alimentaire sur le climat, sur la santé des écosystèmes. Il reste à parler de son impact sur l'eau.
Tu vas noyer les auditeurs avec tout ça, Simon ?
Oh, tu viens de faire une blague nulle, là.
Thomas, il aurait rigolé.
Il a le même humour nul que toi.
Bon, je te l'accorde.
Revenons à nos moutons. Enfin, à notre eau. Il y a quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école quand on étudie le cycle de l'eau, c'est l'importance des plantes. Pour vivre, elles prélèvent de l'eau du sol qu'elles rejettent par leurs feuilles.
Oui, elles transpirent.
Oui, c'est ça, elles transpirent. Donc les pluies qui s'infiltrent dans le sol où se stocke naturellement l'eau, qui sont ensuite prélevées par les plantes, en transpirant, elles renvoient une partie de cette eau dans l'atmosphère qui va former des nuages et retomber sous forme de pluie.
Ah oui, d'accord. Donc les plantes sont des pulvérisateurs d'eau dans l'atmosphère, qui font pleuvoir.
Et ton ficus, en plus d'être un pulvérisateur, est un climatiseur, car en transpirant, il refroidit l'air.
Ah, mais c'est pratique, ça veut dire que les plantes, en été, quand il fait chaud, elles nous apportent de l'eau et de l'air plus frais.
Comme notre agriculture laisse trop souvent les sols nus, qu'elle déforeste, on assèche les territoires, qu'il y a moins de plantes, c'est moins de nuages.
C'est pour ça que planter des haies en bordure des parcelles est bon pour le climat. Elles stockent du carbone, font pleuvoir et refroidissent l'air.
Oui, les bocages normands par exemple, ces paysages entre prairies et forêts sont super pour s'adapter au changement climatique, car ils offrent tous ces services en plus de produire de la nourriture.
Donc ça veut dire que l'agriculture est à la fois un problème et une solution. Ok, elle impacte le climat, les écosystèmes et le cycle de l'eau. Mais si on diminue le nombre d'herbivores, qu'on utilise moins de pesticides, d'engrais et de machines, qu'on protège nos sols et nos espaces naturels, on peut faire notre modèle alimentaire une solution.
D'autant plus que l'agriculture occupe 38% du territoire européen et 60% en France. Aucune autre activité n'a autant d'impact sur notre territoire, mais aucune autre activité ne peut se vanter de pouvoir solutionner autant de nos problèmes.
Tu vois, Simon, quand j'étais petit, je voulais être vétérinaire pour sauver des animaux. Bon, je sais, c'est totalement cliché. Mais tout ce que tu nous as dit me donne plutôt envie d'être agriculteur.
Ah bah, tu auras plus d'impact, c'est certain.
On espère que cette chronique vous a intéressé et donné envie de comprendre comment mettre en place une agriculture à impact positif.
En attendant de comprendre comment concrètement mettre en place un système alimentaire résilient, retrouvez cette chronique sur le site de Radio B.
Vous y trouverez également plein de ressources pour creuser le sujet.
On se retrouve le mois prochain pour parler de souveraineté alimentaire, d'importation et d'exportation de nourriture.
Avant de vous quitter, il faut quand même que je remercie Simon pour sa participation à l'épisode. À bientôt, c'était Rémi Pascal
et Simon Berlin.
J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grosstête et Rémi Pascal sur Radio B.